France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, sociologue et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invitée, poétesse, essayiste, a choisi d'évoquer une œuvre en passe de devenir un classique de la pensée féministe. Un texte paru en 2000 aux États-Unis et qui à l'époque ouvrait le champ à une question délaissée, l'amour. Comment ouvrir son cœur dans des sociétés de violence, de domination et de racisme? Eh bien, c'est toute la question d'À propos d'amour de Bell Hooks.
Feminist movement very much pitted black women against white women by
Le mouvement féministe a fortement opposé les femmes noires aux femmes blanches par le fait que les discours des femmes de couleur et les femmes noires ont été laissés de côté. Par exemple, la première thèse majeure du féminisme était la suivante. Les femmes doivent entrer sur le marché du travail. Eh bien, des masses de femmes noires étaient déjà sur le marché du travail et n'étaient pas libérées. Et ce genre de travail, pour qui est-il libérateur? Il y avait donc une vraie distinction entre ces femmes qui restaient à la maison, dont beaucoup étaient bien éduquées, vous savez, et qui ne faisaient rien, et ces masses de femmes qui travaillaient dans les usines, qui nettoyaient les maisons des gens, et qui ne considéraient pas le travail comme un élément central de la libération, et qui fantasmaient en fait sur les jours de leur vie où elles n'auraient plus à travailler. Tant que nos relations ne s'amélioreront pas, tant que les femmes noires et les femmes blanches ne se comprendront pas mieux, le racisme ne cessera pas dans cette société.
Bonjour Kiémis.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes autrice, poétesse, conférencière. De vous, je cite votre roman « Et refleurir » aux éditions Philippe Ray. Votre ouvrage « Je suis votre pire cauchemar !» Point d'exclamation aux éditions Albin Michel. Ça vous fait toujours rire, vous avez choisi un bon titre.
J'adore ce titre.
Il est très bien, il est très bien. Ainsi, je cite le recueil que vous avez dirigé aux éditions « Les liens qui libèrent ». Pour la joie. Alors, on vient d'entendre la voix de Bell Hooks en 1995. À ce moment-là, elle n'a pas encore écrit À propos d'amour. C'est le livre que vous avez choisi d'évoquer, Kiémis. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Est-ce que cette archive où elle parle du rapport entre les femmes noires et les femmes blanches est une bonne manière déjà de présenter Bell Hooks pour les auditeurs et auditrices?
Alors, je crois que je vais commencer par dire que Bell Hooks, c'est l'une des penseuses les plus importantes, de mon point de vue, de la deuxième partie du XXe siècle. Et même, je crois que
début
son...
Du XXIe.
Du XXIe ouais. Même, je crois qu'elle continue à irriguer, sa pensée continue à irriguer nos pensées, nos rêves, nos utopies. Bell Hooks, c'est une militante féministe noire, noire américaine. Elle naît dans un milieu assez rural, assez pauvre. Et après avoir suivi des études de sociologie, d'anglais et d'histoire politique, elle devient justement une grande théoricienne politique, une militante féministe qui parle de d'émancipation des femmes noires, mais pas que. Elle parle aussi de pop culture. Elle écrit des livres pour enfants.
Elle est aussi... Ouais, alors ça, je suis passée à côté. C'est quoi les livres pour enfants, Bell Hooks?
Elle est totalement prolixe. elle est aussi poétesse, d'ailleurs.
Bah, oui, d'ailleurs, c'est par là d'ailleurs qu'elle commence. Hein. Un de ses premiers ouvrages qui paraît sous son pseudonyme de Bell Hooks, sans majuscule, c'est un recueil de poésie.
Tout à fait. Bell Hooks, d'ailleurs, son nom qui m'inspire, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, Bell Hooks, c'est effectivement son pseudonyme puisqu'elle elle décide à peu près justement au début de sa carrière d'écrivain de changer son nom et de faire référence au nom de sa grand-mère et de sa mère pour, il me semble, rendre hommage à cette filiation de femme. Et déjà, on voit déjà dans Bell Hooks une volonté capitale de parler des femmes noires, des histoires des femmes noires qui sont mises de côté, invisibilisées, dont l'apport non seulement évidemment physique, intellectuel, mais aussi j'ai envie de dire érotique, comme dirait Audre Lorde, quoi. Enfin, la manière dont ce que peut apporter les femmes noires dans cette société est invisibilisé. On voit qu'en fait, son travail et toute sa vie, en fait, c'est de raconter l'histoire de l'exploitation, mais aussi, quelque part, je pense, de l'émancipation des femmes noires.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans À propos d'amour, est-ce que vous trouvez qu'il est vraiment question de ça ? C'est-à-dire que je l'ai lu cette semaine et effectivement, je me suis dit, moi je suis une femme blanche,
bien sûr.
Et je n'ai pas vu justement ce que j'entends dans cette archive, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée d'une figure voilà, pionnière du féminisme noir, ce qu'on appelle le féminisme noir. Quand on lit À propos d'amour, c'est moins sur ce sujet-là, c'est d'une certaine manière, il n'y a pas cette distinction femme noire, femme blanche.
Bah, je crois que déjà, moi, la manière dont j'arrive à Bell Hooks, c'est pas par À propos d'amour d'ailleurs. J'arrive à Bell Hooks après deux textes, un texte dont on pourra parler un peu plus tard, qui s'appelle Entire Woman. Je ne suis-je pas une femme noire, en référence à la militante abolitionniste noire américaine Sojourner Truth, qui déclare justement lors d'une assemblée à des féministes blanches, moi aussi je suis une femme. Donc ça fait vraiment référence à ce qu'elle, ce qu'on vient d'entendre en fait.
C'est en 1851 le discours de ne suis-je pas une femme moi aussi, et c'est le premier essai de Bell Hooks.
Tout à fait, en fait, qui reprend en fait une partie de sa thèse. Qui parle de la manière dont les femmes noires sont exploitées, la manière dont en fait le système esclavagiste est violente, exploite, domine les femmes. C'est un texte extrêmement dur, désolé, il faut le dire, mais qui est essentiel. Elle a déjà écrit pas mal de textes, enfin elle a écrit quelques textes sur le racisme, sur la place des personnes noires. Et c'est vrai que dans À propos d'amour, déjà À propos d'amour, c'est un triptyque. Il fait partie
une trilogie,
une collection
hein.
En fait de trois ouvrages, et l'un des trois ouvrages d'ailleurs traite pas exclusivement, mais parle justement de la place des femmes noires dans une forme de sororité.
C'est le deuxième, il est paru en 2001, donc À propos d'amour c'est 2000, le deuxième c'est Salvation, Black People and Love, et le troisième c'est Communion, The Female Search for Love, ça c'est en 2002, donc vraiment effectivement très proche, hein, très, très prolixe. Il me semble que ces deux autres textes n'ont pas été traduits.
Alors Communion, il a été traduit.
C'est marrant, on a sauté celui du milieu, quoi.
Je sais pas si on a sauté celui du milieu. Je suis pas sûre qu'on l'ait traduit, mais il est possible qu'on l'ait traduit parce qu'on traduit beaucoup de choses sur Bell Hooks, qui m'ont très contente. Mais Communion, pour le coup, je peux assurer qu'il a été traduit parce que je l'ai vu récemment en librairie et je me suis dit, ah, il faut que
j'ai été mauvaise langue. J'ai été mauvaise langue, j'ai mal fait mes recherches et
non,
voilà.
Non, pas du tout. Et puis avant aussi, elle a écrit, qui a aussi été traduit d'ailleurs après À propos d'amour aux éditions Divergence, Rage Assassine, Ending Racism.
Qui est un des textes que vous avez lu aussi en premier.
Juste avant d'ailleurs, juste avant À propos d'amour. Donc je crois que je peux comprendre qu'À propos d'amour, il n'est pas forcément anglais sur la question antiraciste spécifiquement, mais quand on voit en fait tout le travail de Bell Hooks, c'est difficile en fait d'imaginer ce texte en dehors de cette réflexion fondamentale sur justement la lutte antiraciste en fait.
Oui, il ne faut pas se dire qu'il y a des textes qui sont consacrés à la question raciste, raciale, et d'autres qui peuvent s'adresser à toutes les femmes, comme s'il y avait une distinction dans l'œuvre de Bell Hooks elle-même.
Je crois que moi, je vais aller un petit peu plus loin, je pense que la question raciale n'est pas s'adresse à tout le monde en fait finalement. Donc en fait cette question, cette manière de voir À propos d'amour comme étant universelle, je crois qu'elle s'applique à tous ces textes.
C'est important de le dire, c'est pour ça que je veux qu'on le dise, parce qu'on commence par cet archive qui est représentatif de Bell Hooks.
Totalement.
À propos d'amour est un texte, je l'ai dit, qui en passe de devenir un classique parce qu'il évoque des sujets qui sont énormément traités en ce moment. Totalement. Sur les violences conjugales, la masculinité. Mais on peut se dire aussi que quand on lit À propos d'amour, on se demande quel est le rapport avec les autres textes, et c'est important de dire qu'il y a vraiment un lien dans l'œuvre elle-même de Bell Hooks.
Totalement, et je crois même que c'est parce qu'elle traite de la question, non seulement bien sûr de la question du patriarcat, de la lutte féministe, mais aussi de la question antiraciste, entre autres, parce qu'elle parle d'autres choses, c'est parce qu'elle fait ça qu'elle peut écrire À propos d'amour même. Je pense que c'est parce qu'elle a justement un désir de justice qui traverse le texte. Parce que c'est ce qu'elle dit, en fait. Elle dit que l'amour n'existe pas sans justice. L'amour n'existe pas quand il y a violence, quand il y a oppression. C'est parce qu'elle a fait justement ce travail sur les endroits d'oppression les plus intenses, en fait, qu'elle peut ensuite produire un texte que je trouve absolument merveilleux sur l'amour. Au contraire, je trouve que ça rend... En fait, je trouve que ça rend À propos d'amour encore plus fort. Parce qu'il y a cette capacité de se dire, voilà, j'ai travaillé sur l'oppression des personnes noires, des femmes noires, qui font partie de ma famille. Parce que Bell Hooks, ses aïeux, ses aïeuls, étaient esclaves. Et ensuite, elle produit un texte que moi, je trouve absolument magnifique, même si j'entends, je vois certaines critiques sur À propos d'amour. Elle produit un texte que je trouve somptueux sur l'amour. Et ça, c'est... En fait, je trouve que c'est éblouissant. Voilà.
Alors, vous avez décidé, du coup, de choisir ce texte à propos d'amour. Donc, ça n'est pas le premier texte de Bell Hooks que vous découvrez. Néanmoins, vous avez choisi d'en parler ce matin. À quel âge vous découvrez ce texte? Dans quelles conditions? Vous dites que vous avez commencé par d'autres textes qui sont, on va dire, qui ne sont pas séparés, mais qui sont plus politiques directement. Alors, je le dis quand même, le texte à propos d'amour, ce n'est pas un texte cucu. Hein.
Ah, c'est clair.
Ce n'est pas mièvre, c'est un projet politique. On n'est pas du tout sur la romance, bien au contraire. Et c'est ça qui peut aussi un petit peu décontenancer au début. Donc, à quel moment, dans quelles conditions vous découvrez ce texte et pourquoi vous le trouvez aussi éblouissant, Kémis?
Bah, parce qu'en fait, quand je commence à lire à propos d'amour, en fait, j'entends parler de Bell Hooks deux fois avant de lire.
Vous avez quel âge?
Déjà, j'ai 33
ans. Non, pas aujourd'hui, je veux dire au moment.
Quand je rencontre le texte, j'ai...
Non, je fais jamais ça. Je ne demande jamais l'âge à mes invités. C'est juste pour ça. Déjà, vous avez quel âge?
Et du coup, c'était il y a à peu près 10 ans d'ailleurs, donc c'est à 25, 26 plutôt. Et en fait, j'entends parler de Bell Hooks deux fois. La première fois, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est dans un de mes cours de géographie sociale qui date des années avant. Je suis un petit peu dilettante, mais j'ai une professeure qui nous parle justement de la question de l'intersectionnalité, de Bell Hooks, de Patricia Hill Collins, de Kimberly Crenshaw.
La créatrice de du concept d'intersectionnalité.
Tout à fait. Et donc, ça crée une petite graine en moi. Et puis ensuite, comment dirais-je? Parce que, en fait, le monde est ce qu'il est, m'informe et je constate que mon espoir de voir le racisme s'effondrer est réduit à néant. et donc, je suis confrontée à des images de violences policières qui touchent des corps noirs, d'hommes noirs, qui représentent, en tout cas, qui me font penser à mes frères, à mon père, etc. C'est quelque chose qui me suit déjà depuis un certain temps, mais là, il y a une colère très importante qui naît en moi. Une colère qui vient aussi de la déception, en fait, finalement, de se dire, bah, en fait, on pense à ce moment-là, c'est l'ère pré-Trump, une ère vraiment révolue, mais on pense à ce moment-là qu'on a avancé, que le monde va vers plus de progrès, et que nenni, en fait, on continue, des hommes noirs continuent à être abattus par la police, notamment aux États-Unis, mais malheureusement, ça arrive en France, ou ça vient en France, ou en tout cas, j'en prends connaissance en France, on va dire ça plutôt comme ça. Et donc, je commence par lire Killing Rage, Ending Racism. Donc, pardon, Rage Assassine, puisqu'il a été traduit, Rage Assassine...
Mettre
fin au racisme. Et donc, déjà, moi, je trouve que, on va en parler, mais l'écriture de Bell Hooks, elle est très facile d'accès, puisque je lis en plus en anglais, donc vous imaginez. Mais elle est très facile, et puis elle témoigne, en tout cas, de mon point de vue, elle fait quelque chose que je n'ai pas rencontré jusque-là en France, dans des essais, c'est qu'elle elle parle au jeu, elle parle de colère, elle ne se cache pas. Et donc tout de suite, je me sens vue. Je me dis, ah voilà, une intellectuelle, une femme noire qui est chercheur et qui aborde en fait cette question de ce sentiment qui nous bouleverse en fait. Donc voilà, je rencontre ce texte-là, il fait écho à des sentiments que je ressens aussi face à un constat accablant sur justement la persistance du racisme et de l'oppression raciste et de l'oppression sexiste aussi. Et donc voilà, donc ça c'est le premier texte que je trouve. Et ensuite, je me dis, ah tiens, j'ai la chance de pouvoir participer au documentaire d'Amandine Gay que vous avez reçu aussi.
Ouvrir
la voie. Et en fait, dans le cadre d'une rencontre qu'elle fait à La Parole Errante à Montreuil, on est un peu cliché, mais bon, c'est comme ça. elle parle justement, elle fait référence à beaucoup de femmes noires qui sont des intellectuelles, qui ont produit du savoir, de la militance bien sûr, mais qui ont produit des idées. Et donc, elle reparle de Bell Hooks, et là, je me dis, ah bah oui, je l'ai lu, et puis je vais relire un autre texte. Et là, je me dis, ah tiens, à propos d'amour. Il s'avère que cet été-là, je suis tombée amoureuse, ça tombe bien. Et je me dis, ah bah, je vais lire un essai qui parle d'amour, pour voir ce que... Ce
vous vous attendiez aussi à quelque chose sur l'amour, les sentiments, les rapports amoureux entre, voilà, dans une relation à deux. En fait, on s'attend un peu à ça au début.
Totalement, comment dirais-je? Enfin, en vrai, pour vous dire la vérité, je m'attends à rien. Je me dis juste, tiens, j'ai lu Rage Assassine. Waouh, elle m'a vraiment, j'ai vraiment aimé son écriture. Tiens, je vais relire à certains moments où je lisais beaucoup de non-fiction d'essais. Bon, c'est moins le cas maintenant, mais en tout cas, je lis ça. Et là, je suis encore une fois époustouflée parce que les premières pages, en fait, on lit et elle parle d'amour. En dégommant justement la version romantique, elle dit bon, tomber amoureux, c'est flou, ça n'a pas de sens. En fait, on parle d'amour de manière assez nébuleuse. Et moi, à partir de bien sûr de lectures que j'ai eues, je vais donner une définition très claire de l'amour. Et donc, bon, déjà, elle commence à dire ça. Elle commence aussi par dire bah moi, entre guillemets, je spoil un peu le livre, mais c'est le but de l'émission. Mais elle commence par dire qu'elle a grandi dans une famille qui l'a nourrie. Elle parle justement de son rapport à sa famille, qui l'a nourrie. Mais maintenant qu'elle sait ce que c'est l'amour, elle se dit que l'amour n'existe pas sans violence. Avec violence, pardon, plutôt. L'amour n'existe pas quand il y a violence. Donc, elle ne sait pas si elle pourrait se dire que sa famille l'a aimée. Et ça, tout de suite, en fait, j'ouvre le livre et je me dis « Oh waouh !» Et ensuite, elle donne cette définition très claire qui me marque tout de suite, de dire, voilà, l'amour, en fait, c'est un certain nombre, il y a un certain nombre de, je sais pas si j'ai envie de dire, de critères ou de caractéristiques, et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'amour. Et c'est des caractéristiques qui sont, enfin, quand elle dit l'amour, c'est non seulement un sentiment, mais une action qui doit permettre... l'élévation, même si c'est pas le mot élévation, l'élargissement spirituel, émotionnel de l'autre, mais c'est extrêmement ambitieux. Et en même temps, quand je lis ce livre, je me sens... je suis travaillée, vraiment.
Ça vous perturbe.
Ça me bouleverse même, vraiment.
Pourquoi ça vous bouleverse?
Parce que je crois que, en fait, finalement, on m'avait jamais parlé d'amour comme ça. On n'avait jamais vraiment parlé d'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? On dit que c'est un sentiment, c'est ce qu'elle dit, en fait, dans le début de son texte. Que c'est un sentiment nébuleux, que c'est les...
Que ça nous tombe dessus.
Ça nous tombe dessus, que c'est quelque chose où on n'a pas vraiment d'action. On est passif, en fait, face à l'amour. C'est quelque chose qui est exogène à nous, qui nous traverse, qui nous dépasse.
Et en même temps, elle souligne ce paradoxe, on ne fait que parler d'amour. Regarder des comédies Totalement. Romantiques. Et dans sa préface, qui est vraiment perturbant et bouleversant, c'est qu'elle dit « Et en même temps, tout le monde a tourné le dos à l'amour. » Et ça, alors elle le dit, puisqu'elle a le cœur brisé, elle a eu deux relations compliquées. Elle parle de sa famille, et vous l'avez dit, qui est mise en fait. Bell Hooks, elle est faite pour être lue. Elle parle de sa famille, de son enfance, c'est terrible. Elle dit « J'ai été aimée, et tout à coup... Je n'ai plus été aimée. » Alors, on ne comprend pas véritablement ce qui s'est passé, l'arrivée des frères et sœurs, voilà, les parents, le père, on ne sait pas. Mais voilà, Bell Hooks veut être lue et elle souligne ce paradoxe. On parle d'amour, on pense que c'est normal, mais en fait, tout le monde s'en fiche de savoir ce que c'est, de le travailler, de s'y consacrer.
Et de ce que ça provoque aussi, finalement. Et à partir de ça, et c'est pour ça que je trouve que Bell Hooks a une... Dans son texte à propos d'amour, je le trouve brillant parce qu'en fait, elle prend cette question qui est, comme on le disait tout à l'heure, rapidement universelle, j'ai envie de dire. C'est, voilà, tout le monde, on parle souvent d'amour, c'est quelque chose qui traverse nos vies, en tout cas. Et ensuite, elle crée une définition. Donc, elle dit que l'amour, c'est l'attention, l'affection, se reconnaître, le respect, le fait de s'engager, la confiance... et la communication honnête, etc. Et elle parle beaucoup, justement, de la vérité aussi, de qu'est-ce que c'est que l'honnêteté, comment ça se fait qu'on est dans des sociétés qui ne sont pas honnêtes, en
fait. Mais c'est vrai qu'il y a un chapitre entier sur le mensonge.
Sur le mensonge, en fait, sur la place du mensonge dans cette société.
Et d'abord à soi-même.
Tout à fait.
De dire, par exemple, je suis tombée amoureuse, ça n'a pas marché, c'est de sa faute à lui, à elle, c'est pas de ma faute, peu importe, on va de l'avant. C'est-à-dire de ne pas vouloir regarder en face quelque chose honnêtement.
Et je crois que c'est ça, le livre, c'est qu'elle nous force à nous regarder en face. Elle nous force à regarder ce que c'est que l'amour, déjà dans nos relations interpersonnelles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas résumer ce texte en se disant que c'est un livre qui va parler d'amour dans nos relations interpersonnelles. Elle aborde ça, bien sûr, elle ne se cache pas. Mais par contre, elle raconte aussi de ce que ça dit, des structures en fait, qui nous gouvernent, en tout cas, ou qui nous oppressent souvent. Si on est dans des sociétés qui mentent, si on est dans des sociétés où, justement, on ne sait pas ce que c'est que l'amour, on peut parfois le porter au nu, mais sans vraiment savoir ce que ça implique, ce que ça devrait exclure ou non, eh bien, du coup, ça crée aussi des sociétés... entre guillemets, non fonctionnelles de son point de vue, qui sont peut-être fonctionnelles d'un point de vue, je sais pas moi, capitaliste ou je sais pas, mais en tout cas qui sont pas aimantes.
En tout cas, il n'y a pas de l'amour.
Ouais. Et il n'y a pas d'amour, en fait. Et puis surtout, je trouve que ce qui est... Comment dirais-je ? Ce qui est, je trouve, bouleversant, c'est de se dire, d'accord, donc si l'amour, c'est... L'amour ne peut exister que s'il n'y a pas de violence. C'est-à-dire que beaucoup des relations qu'on a au quotidien sont sans amour. Et si on souhaite un monde plus aimant, ce qui peut paraître être une phrase naïve, mais finalement qui est une phrase tellement ambitieuse, tellement radicale quelque part, eh ben il faut, il y a des choses à déconstruire de manière presque immédiate, en fait. Il y a des urgences, en fait. Il y a une urgence à reconstruire une société plus aimante. Et dire ça, c'est pas... Enfin, même si moi, je suis pro-naïveté, mais dire ça, c'est pas quelque chose qui est passe-partout, en fait, quand on lit Bellux.
Mais vous voyez, vous êtes obligé de dire, Kémis, que vous êtes pro-naïveté.
Moi, je suis
parce
pro-naïveté,
que...
ouais.
Oui, mais parce qu'on on se sent obligé de penser, de se défendre, qu'on prend l'amour au sérieux. Or, c'est ça qui est révolutionnaire avec Bellux, c'est de dire, en fait, l'amour, c'est sérieux. Alors, ce n'est pas un essai de philosophie où vous allez lire du Platon, du Aristote, du Descartes, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de développement personnel, il y a beaucoup d'expérience à la première personne, mais elle réhabilite quand même une idée qu'on trouve dans la philosophie occidentale depuis le début, qui est quand même que la fondation des sociétés politiques, c'est l'amour.
Totalement.
Alors, on parlait d'amitié, de filia, mais là, c'est l'amour.
Et de la
là,
vérité.
Nous le dit. Et on est obligé aujourd'hui de dire, bah, parler d'amour, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas cucu, c'est quand même sérieux et tout. Alors, pourquoi on devrait presque se prémunir alors qu'en fait, elle dit, bah, sans ça, en fait, on peut même pas regarder à côté, on peut même pas parler, on est obligé de mentir. En ça, ce livre, c'est quand même un livre politique.
Totalement. Ah bah, c'est extrêmement politique, surtout qu'elle, elle en parle de son point de vue, comme on le disait au début, de militante afroféministe, de féministe noire. Et quelque part, en fait, j'ai même envie de dire, parce qu'elle en parle d'un point de vue où elle a regardé ou même ressenti l'oppression au plus près d'elle. Parler d'amour, c'est radical et révolutionnaire. Et c'est pas du tout nier la colère. Elle a écrit un livre sur la colère. Elle a écrit un livre sur le fait aussi que cette colère qui la traversait, qui la mangeait parfois, c'était aussi quelque chose qui lui permettait de se redresser. Mais parler d'amour je trouve que continuer à parler d'amour après avoir écrit sur les violences corporelles qui sont faites aux femmes noires, c'est aussi un projet politique. C'est de dire la connexion continue d'exister, en fait.
Commencer par penser l'amour toujours comme une action plutôt que comme un sentiment, c'est une manière de faire en sorte que toute personne utilisant le mot assume automatiquement sa responsabilité et rendent des comptes. On nous dit souvent que les sentiments ne se contrôlent pas. Pourtant, la plupart d'entre nous acceptent l'idée que nous sommes maîtres et maîtresses de nos actes, que l'intention et la volonté structurent ce que nous faisons. Nous acceptons aussi que nos actes aient des conséquences. Se rendre compte que les sentiments découlent des actes est une manière de se débarrasser de présupposés couramment admis, comme celui d'après lequel les parents aiment forcément leurs enfants, ou celui d'après lequel on tombe amoureux, amoureuse, sans exercer sa volonté ou sans choisir. Ou encore celui d'après lequel il existe des crimes passionnels, du type « il l'a tué parce qu'il l'aimait trop ». Si l'on se souvenait constamment que l'amour, c'est ce qu'on fait, On n'utiliserait pas le mot d'une manière qui dévalue et dégrade son sens. Lorsqu'on se montre aimant et mente, on exprime ouvertement et honnêtement son attention, son affection, sa responsabilité, son respect, son engagement et sa confiance.
Extrait du premier chapitre d'À propos d'amour de Bell Hooks, paru en 2000 aux États-Unis, lu par Anaïs Isbert. Ce premier chapitre s'intitule « La clarté », parce que pour bien parler d'amour, Kémis, Bell Hooks nous dit « il faut d'abord bien le définir ». Vous avez commencé à en parler de cette définition, donc on y entend en fait que l'amour est une action, un acte et pas un sentiment. Ça, c'est vraiment la chose à retenir quand même de ce texte, de ce début de texte. Et j'aimerais citer qui est mise quand même la définition de l'amour sur laquelle s'appuie Bell Hooks, qui est donnée quelques pages avant, qui est celle en fait d'un psychiatre qui s'appelle Scott Peck et qui dit... L'amour, c'est la volonté de s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Et il faudra garder, tout au long de la lecture de ce livre, cette définition, et même au-delà d'ailleurs de la lecture de ce livre.
Tout à fait. Et je crois que ce qui est fort dans ce texte aussi, c'est que quand elle pose ce constat, j'ai envie de dire, ou cette, pas loi, mais c'est un peu le terme, cette règle d'un amour qui est un acte, et pas un sentiment, un acte, ça oblige. Un acte, ça nous permet aussi d'avoir un espace de création, de créativité, mais ça responsabilise aussi. Si l'amour ne nous tombe pas dessus, si l'amour n'est pas un acquis, n'est pas une évidence, si l'amour répond à une définition précise, alors il faut s'y tenir. Alors il faut essayer de construire, en fait. Et en même temps, c'est exigeant. Puisque voilà, cette définition est exigeante sur la question de la croissance spirituelle.
Oui, parfois on n'a pas envie de croître.
Parfois on n'a pas envie de croître. Parfois on ne pense pas que l'amour qu'on donne à quelqu'un, c'est pour le faire croître aussi. Parfois, je pense que croître, c'est aussi... parfois on n'a pas le contrôle. Je ne sais pas comment dire ça.
Et puis ça peut être ambigu, ça peut être aussi vu de manière assez égoïste, c'est-à-dire de pomper l'autre, quoi, de complètement voilà l'aspirer son énergie au détriment de d'autrui justement.
Totalement. Mais pour autant, je crois quand même que dans cette définition et dans cette manière de penser l'amour comme une action, il y a une forme de liberté. Il y a une liberté d'agir, de créer un nouvel amour, de transformer un amour, de se transformer, de transformer la société. Peut-être même avant de se transformer, puisque c'est très développement personnel, mais de transformer la société, de penser cet amour comme un amour qui transforme la société. C'est aussi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté dans cette manière de penser l'amour qu'un amour qui nous tombe dessus, qui va de soi, qui est évident, qui est incontrôlable. On ne peut pas tout contrôler, mais en tout cas, je trouve que dans cette définition, il y a cet amour mérite de l'attention. Il mérite du soin. Il mérite aussi un engagement et une conscience.
Un travail. Une pratique, en fait, elle parle beaucoup de pratique de l'amour. Kémis, vous venez de dire, ça fait très développement personnel. On parlait de la naïveté. Bell Hooks, elle-même, s'appuie sur des textes de développement personnel. Est-ce que, c'est pas grave, en fait. Enfin, parce que vous le disiez d'une manière... c'est très développement personnel, pardon. Alors qu'en fait, peut-être peu importe.
Alors, je crois pas. Je crois que... Enfin, c'est pas pardon, c'est plus dans l'ordre que je voulais dire.
Ah oui.
C'est parce que je pense qu'on se transforme parce que la société transforme. Enfin, on peut se transformer parce qu'on arrive à transformer la société. C'est plus dans ce sens-là, en fait, que je disais ça. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a une... En tout cas, en Europe, en France, on est très critique face à cette question du développement personnel. Et pourtant, il faut bien le dire, je trouve que la variété des sources de Bell Hooks rend son texte aussi très accessible, rend son texte riche, rend son texte palpable.
Oui, et presque manipulable. C'est un manuel,
totalement.
En fait. Il est utile.
Totalement.
C'est-à-dire que c'est un texte, c'est pas juste on le lit, il nous bouleverse, c'est qu'il y a un effet plus que de l'ordre de l'émotion. Mais alors, je vais employer un terme qui fait très spirituel, mais ça tombe bien parce qu'on va en parler après, Clémisse. Mais il y a un truc de conversion.
Total.
Alors, j'ai l'impression vraiment de porter un culte à Belloux, mais c'est un type de texte qui voilà, ne ressemble à aucun autre texte. C'est plus typique peut-être d'une production aussi anglo-saxonne, américaine. Voilà, il faut l'avoir en tête. Mais en tout cas, qui veut avoir un effet sur son lecteur.
Tout à fait. Et puis, de toute façon, Belloux ne se cache pas, même dans ses inspirations. Elle est aussi inspirée par des... Et c'est pour ça aussi qu'elle écrit aussi, je trouve, elle écrit de manière aussi limpide. C'est parce qu'elle a aussi un objectif. Ce texte, c'est pas juste un texte pour raconter ce que c'est que l'amour. Il a un objectif transformateur, parce que les textes de Belloux ont un objectif transformateur. Elle veut... on n'aime pas ce mot, mais elle veut faire la propagande. Elle veut avoir un impact. Elle n'est pas juste là pour parler des idées, même si je crois que la dichotomie idée-corps, c'est un petit peu... Voilà, moi, je trouve que c'est un petit peu abstrait, justement. Mm-hmm. Mais elle a vraiment... Voilà, son but, c'est d'être lue, en fait. D'être lue, d'être entendue et de transformer la société. Et à propos d'amour, je trouve qu'il a cet effet. Et d'ailleurs, je viens en parler, mais c'est le point culminant d'années où j'ai dit à mes amis, ma sœur, les personnes qui sont venues me voir en conférence, de lire ce texte. Parce que justement, comme vous le disiez tout à l'heure, il nous transforme et on a aussi envie de le donner. On a envie de l'offrir. On a envie de dire, voilà, j'ai lu ça, ça m'a touchée, ça m'a transformée. Lis ça, ça peut aussi... t'aider à réfléchir de manière différente.
Mais comment on fait, moi, c'est la question que je me pose, qui est mise pour se débarrasser de toutes les idées qu'on avait de l'amour comme un sentiment. Et puis comment on fait, en fait, pour choisir d'aimer? C'est-à-dire qu'on peut choisir l'amour avec ses voisins, d'être plus ouvert, d'être plus dans la parole, plus dans l'honnêteté. Mais parfois, l'amour nous tombe quand même dessus. On aime quand même plutôt quelqu'un que quelqu'un d'autre. Bien et là, il y a quelque chose presque d'inconscient qui va se jouer. Ça, quand vous avez lu Belloux, ou même, enfin voilà, aujourd'hui, 10 ans bien après, sûr. Qui est mise, comment en fait on arrive à articuler quand même, voilà, ce truc de... Bah, il y a quand même quelque chose qui nous tombe dessus quand on tombe amoureux. Et sa définition à Belloux.
Je crois que la question du sentiment qui nous émeut, c'est différent de ce dont elle veut parler, elle. Mmh. Moi, je crois, c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis de Belloux, mais mon avis personnel, c'est qu'on va pas pouvoir se défaire de tout ce qui vient avant nous. Notre éducation, la manière dont on a élevé, transformer 20 ou 30 ans ou même des centaines d'années de conditionnement, ça se fait pas juste avec un livre. Soyons réalistes quand même. Restons humbles par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce que nous sommes. Et parfois, il y a des choses, comme je le disais très bien tout à l'heure, qu'on ne peut pas contrôler. Mmh. Et c'est OK. Je crois pas que Belloux dit qu'on peut tout contrôler. Je crois pas que ce soit l'objectif. Par contre, ce qu'on peut contrôler, du moins essayer, c'est l'engagement. Mmh. C'est la conscience. C'est se dire qu'effectivement, on peut être mu par quelque chose qui nous prend comme ça, dont on ne sait pas d'où il vient, peut-être du conditionnement, peut-être des phéromones, peut-être de l'odeur, peut-être de nos propres liens avec le passé, de notre société, notre socialisation. Mais ensuite, quand on veut s'engager dans une action, c'est autre chose. C'est là où je crois qu'il existe un petit espace où on peut se dire que, en fait, là, j'ai envie d'aborder la personne avec plus de douceur, d'honnêteté, de soin. Alors, je pense que je vais être honnête, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le livre est très ambitieux. C'est très ambitieux, c'est dur. Quand je dis ambitieux, ce que je veux dire, c'est que c'est dur. C'est pas facile.
Trop ambitieux, peut-être.
Je dirais pas trop ambitieux, parce que je crois que c'est bien d'avoir des horizons vastes. Mais,
Et élevé.
Tout en ayant conscience que parfois on tombe. Je crois pas que Belloux était quelqu'un de parfait. Je pense qu'elle était critiquable. Même le livre est critiquable. Hein. Je vois une des critiques du livre qui est très juste d'ailleurs, c'est qu'il est très hétérocentré. Par exemple, on parle beaucoup des relations néanmoins hommes-femmes.
Parce qu'elle-même était hétérosexuelle, donc on voit bien qu'elle parle de la masculinité avec la féminité, et que voilà, son enjeu, c'est l'inégalité dans le couple de ce point de vue-là.
Tout à fait. En tout cas, quand elle écrit à ce moment-là, c'est ça son enjeu.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que effectivement, l'objectif de Belloux, c'est pas de se dire qu'on va être parfait, c'est de créer une société plus aimante, plus douce, plus vaste pour nous aussi. Et je crois que on peut s'autoriser l'imperfection, mais on doit s'atteler à la conscience.
Voilà. Kémis, on va écouter un autre texte de Bellux extrait d'À propos d'amour. Alors là, on saute 13 chapitres, puisqu'on passe du premier au 13e chapitre, le dernier. J'ai donné la définition du psychiatre Scott Peck de l'amour, où il dit que c'est cette volonté de s'accroître spirituellement. Et justement, c'est une des dimensions qui s'affirme de plus en plus dans le livre, cette dimension spirituelle, et ça culmine dans ce dernier chapitre.
Lorsque j'étais jeune fille, je m'allongeais dans le lit de ma chambre mansardée et je conversais sans fin avec un esprit divin à propos d'amour. À l'époque, je n'imaginais pas que j'aurais un jour le courage de parler d'amour sans la couverture qu'offre la solitude du secret ou de la nuit. Comme Jacob errant seul près du ruisseau, dans le silence de ma chambre plongée dans l'obscurité, je me suis débattue avec la métaphysique de l'amour. J'ai cherché à comprendre le mystère de l'amour. J'ai continué à me débattre jusqu'à ce que ma conscience s'aiguise et qu'une nouvelle vision de l'amour s'impose à moi. Je reconnais aujourd'hui m'être engagée dans une pratique spirituelle rigoureuse, ouvrir son cœur. Ce qui a fait de moi une personne dévouée, en quête sur le chemin de l'amour, capable de dialoguer sans crainte avec les anges, face à face. La peur nous barre l'accès à l'amour de mille manières qu'on ne saurait circonscrire. On craint de croire aux vérités de l'amour et de les laisser guider notre vie dans la mesure où cela risquerait de nous exposer à la trahison. On s'empêche donc d'aimer alors que notre cœur est plein de désirs. Être aimant, aimante, ne signifie pas qu'on sera trahi. L'amour nous aide à affronter la trahison sans perdre courage. Notre esprit s'y ressource pour aimer à nouveau. Si difficile, si terrible que soit notre sort dans la vie, il nous est toujours possible de faire le choix de l'amour contre le manque d'amour, en prêtant l'oreille aux voix de l'espoir qui s'adressent à nous, qui parlent à nos cœurs, les voix des anges. Lorsque les anges parlent d'amour, ils nous disent que ce n'est qu'en aimant qu'on peut aller au paradis terrestre. Ils nous disent que l'on est chez soi au paradis, et que l'amour est notre véritable destin.
Dernière ligne du dernier chapitre d'À propos d'amour de Bellux, lu par Anaïs Isbert. Ce chapitre s'intitule « Le destin ». Alors, il y a cette dimension spirituelle Kémis qui apparaît de plus en plus au fur et à mesure du texte. Comment vous l'expliquez ? Moi, j'ai été très décontenancée.
Alors, je comprends cette surprise. D'ailleurs, quand je suggère de lire À propos d'amour, c'est une remarque qui revient souvent. Je pense que la manière dont on l'explique, c'est que je crois que pour beaucoup, l'endroit où, pour la première fois peut-être, on peut être aimé, c'est l'endroit de la spiritualité. Quand il y a des espaces, et d'ailleurs, elle le dit très bien dans ce chapitre, quand on a été blessé, blessé très durement d'ailleurs, par la société, par la vie, on a ce désir en fait avide de pouvoir être accueilli, embrassé et de pouvoir être entendu. Et pour certains, ce désir n'est pas répondu dans, je veux dire, dans la rencontre avec quelqu'un. Et donc, pour faire face au silence, il faut pouvoir et surtout continuer à croire en fait à notre capacité à aimer ou à notre capacité à recevoir l'amour, la spiritualité peut être une réponse. Et dans l'histoire de Bellux, la notion de la spiritualité ou de l'endroit, d'aucuns diraient religieux, d'autres spirituels, cet endroit qui peut enfin l'accueillir, enfin l'aimer, c'est quelque chose qui est très important, en fait, finalement, dans son parcours. Moi, ce que j'en tire, c'est quelque chose d'un peu différent. Je pense que la spiritualité, c'est un langage. C'est une manière de faire monde, de faire sens aussi de l'invisible. Je crois que quand on est un petit peu plus flexible, je dirais, à cette question de la spiritualité, il est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir imaginer des choses qui n'existent pas. Et dans une société comme la nôtre, qui est une société qui est assez violente, je suis pas la moins privilégiée, je suis aujourd'hui à France Culture, mais qui est quand même une société assez violente, je crois qu'il est très important de pouvoir se raccrocher à cette lumière, même quand elle existe, elle n'est pas encore là. Quelque chose auquel je pense, et notamment, ça fait aussi partie de l'histoire de Belloux, c'est que beaucoup de mouvements de résistance, notamment, je dirais noir américain, mais en fait, ça a existé dans beaucoup d'espaces de la résistance noire à l'oppression, à l'esclavage. Ils se sont faits aussi dans des espaces religieux. Les Noirs américains étaient vraiment dans les églises noires américaines qui ont organisé un certain nombre de boycotts, etc. Moi, je suis camerounaise, mais je pense aussi aux révolutionnaires haïtiens qui réussissent à surmonter un système colonial et esclavagiste extrêmement dur. Je crois que la partie l'endroit spirituel est un endroit qui peut aussi régénérer, rendre plus fort, permettre d'imaginer une émancipation qui n'est pas encore là.
Pour vous, c'est ça la spiritualité, c'est la définition que vous pourriez donner à ce qu'on entend par croissance spirituelle à travers l'amour, la pratique spirituelle dont elle parle dans ce texte.
Moi, je dirais que c'est vraiment la spiritualité, c'est vraiment une manière de faire monde, d'essayer de rendre état de quelque chose qui n'existe pas encore.
C'est presque une matière créatrice, un lieu de création.
Exactement.
En tout cas.
On va lire un texte d'Audre ouais. Lorde tout ah, à ouais. l'heure. Elle parle justement il existe en chaque femme un lieu sombre d'où naît l'émancipation. Là, je la paraphrase vraiment grossièrement, mais d'où naît l'émancipation. Et je crois que c'est aussi à ça que peut nous servir la spiritualité. Évidemment, je ne dis pas que...
Ça passe pas forcément par aller à la messe, par écouter des prêches.
Tout à fait. Et je sais qu'en France, on a quand même je pense, une culture ou une histoire qui oppose plutôt...
On est suspicieux, on est très critique, en tout cas.
On est critique et ça se... légitime, enfin je veux dire, au vu du contexte, la spiritualité ou l'endroit spirituel était plus un lieu de domination, je fais des grandes généralisations là, mais un lieu de domination et de pouvoir plus qu'un lieu d'émancipation. Néanmoins, c'est pas toujours le cas de certaines populations. Parfois, l'endroit spirituel, c'est le seul endroit qui existe où on peut se penser libre. Et ça, je crois que c'est aussi à la base du texte de Belloux. C'est quelque chose qui a un fondement essentiel sur lequel on ne peut pas transiger. Et je crois que c'est une manière que je trouve beaucoup plus féconde de penser à la spiritualité.
Vous qui êtes mise, vous m'avez dit avant l'émission que vous aviez une obsession qui était celle de la joie. Belloux parle de l'amour. Vous avez dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle Pour la joie, quel rapport, quel parallèle vous pourriez faire entre l'amour et la joie? Parce que vous avez dit que Belloux, vous avez mis des mots, avait aussi rendu légitime votre colère, mais aussi autre chose que la colère, l'amour. Qu'est-ce qu'elle a insufflé justement dans cette obsession que vous avez pour la joie?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, Belloux a contribué à cette obsession. On va dire ce focus, excusez-moi cet anglicisme, sur la joie. Je crois déjà qu'à propos d'amour, finalement, il est bouleversant. Mais à chaque fois que je le lis, je suis traversée par un sentiment joyeux aussi parce que je trouve qu'il est à nouveau ambitieux. Et ambitieux, ça veut dire dur, mais ça veut dire aussi qu'il y a de l'espace pour croire. Il y a de l'espace pour créer. Il y a une manière d'imaginer d'autres mondes, d'autres... d'autres situations, d'autres amours, d'autres relations.
Ça, c'est joyeux, parce que moi, la lecture...
Ça, c'est joyeux, moi. C'est hyper joyeux.
À la lecture... Moi, quand je vous entends, je trouve ça joyeux. Mais à la lecture de Belloux...
Ouais.
Je me suis dit, c'est difficile. Et d'ailleurs, dans le texte qu'on a entendu, elle parle de trahison. Il y a des longs passages aussi sur la blessure, la souffrance, qu'elle distingue d'ailleurs par rapport au tout premier texte qu'on avait entendu des violences, de la violence. Mais parfois, c'est difficile en fait de faire la part entre la violence qu'on accepte parce qu'on se dit que ça fait partie de l'amour et puis la souffrance qu'on rejetterait parce que ce serait trop difficile. Et là, à cet endroit-là, la joie, moi, elle me paraît... lointaine, inaccessible.
Oui, bien sûr, je comprends. Je crois que c'est... je comprends, parce que c'est vrai, et je pense pas que tout le texte est joyeux, on rigole pas quand on lit à propos d'amour. Mais je crois que moi, j'y vois de la joie parce que j'y vois de la capacité, de la possibilité.
C'est pas la joie rire, quoi, voilà. C'est pas comique.
Alors après, moi, je pense aussi que j'ai une capacité à la joie qui est assez particulière. Je dis souvent que la joie, c'est quelque chose que j'hérite aussi en famille. Voilà, ma famille, c'est des gens qui sont assez joyeux, pas souvent, enfin pas souvent, ils sont tristes comme d'autres, mais je veux dire, ils ont une pratique de la joie qui est assez, qui me la rend assez familière. Mais je trouve que dans le texte d'À propos d'amour, enfin dans le texte de Bell Hooks, oui, effectivement, elle parle de trahison, elle parle de violence, elle parle de mensonges, elle parle de d'oppression.
Mais il y en a qui sont nécessaires et pas d'autres.
Tout à fait, mais elle parle aussi de comment on continue à aimer. Et d'ailleurs, on finit sur ça. Comment on continue, comment on sort de la honte? Comment on sort de la souffrance? Comment on sort de ces liens qui nous déchirent, en fait, qui nous font saigner? Comment on sort de ça? Et elle finit d'ailleurs son texte là-dessus en disant qu'on peut sortir de la honte, en fait. On peut sortir de... on peut tenter, en tout cas, d'aller vers la réparation, la guérison. Et dans cet espace-là, ce que ça dit, c'est que, et c'est aussi très spirituel et très religieux, c'est qu'on n'est pas damné. En fait, il reste encore une chance. En fait, c'est possible. En fait, la vie revient. Et ça, ça paraît peu, mais c'est comme un premier matin de printemps, ça met en joie. C'est-à-dire que la lumière revient. Et ça, c'est pas acquis. Même le savoir, ce n'est pas acquis. Et pourtant, je crois que c'est important de le dire et je crois que finalement, c'est ce que propose Bell Hooks. À travers l'étude de nos souffrances, de nos blessures, de ces oppressions, il existe quelque part une société plus aimante et on peut y accéder.
Et donc ça, c'est pas naïf.
C'est pas naïf, c'est hyper...
Est-ce que vous vouliez revenir sur la naïveté?
Tout à fait. Non, mais moi, je pense que les procès en naïveté sont faits parfois par des gens qui se sentent plus confortables à être fatalistes. Et je comprends, être fataliste, c'est vraiment confortable. C'est vraiment facile de voir le noir, et il y a beaucoup de noir. Il y a beaucoup de souffrance. Mais c'est vraiment facile de se dire que, bon, bah, c'est foutu. On peut lâcher, c'est foutu, on changera rien. Et je comprends, moi j'aime bien le confort, donc je comprends. La position qu'a Bell Hooks, que certains d'entre nous avons, c'est une position plus difficile. Et justement, où on risque à nouveau des trahisons, on risque de souffrir à nouveau, on risque d'être déçu. Donc oui, c'est une position difficile, mais c'est la seule possible.
On va écouter un texte d'Audre Lorde.
Pour les femmes, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoirs et rêves d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes. À mesure que nous apprenons à les connaître et à les accepter, nos émotions ainsi explorées deviennent des terres sacrées et fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses. Elles abritent dès lors cette différence si nécessaire au changement et à l'élaboration de toute action sensée. Je pourrais énumérer sur le champ au moins 10 idées qui, si elles n'étaient pas nées de rêves et de poèmes, m'auraient semblé intolérables ou incompréhensibles et effrayantes. Il ne s'agit pas là d'un songe creux, mais d'une attention soutenue prêtée au véritable sens de « cela est bien pour moi ».
La poésie n'est pas un luxe, texte de 1977 d'Audre Lorde. Alors, Kiémis, vous avez hésité entre Bell Hooks et Audre Lorde, et bien vous avez eu les deux.
Ouais, j'ai trop de chance.
On aura plus parlé de Bell Hooks, mais Audre Lorde, voilà, vous l'avez évoqué. Ce texte, ça va exactement dans le sens de Bell Hooks sur l'écriture incarnée, sur la dimension politique, pas que poétique, esthétique de loin. Non, au contraire, c'est quelque chose de matériel, de manuel. C'est pour ça que vous l'avez choisi.
Totalement, je l'ai aussi choisi. Je suis très contente qu'on puisse aborder deux personnes qui sont vraiment capitales à mon désir d'écrire, j'imagine. Et surtout, ce texte, La poésie n'est pas un luxe, je me souviens que je l'ai lu d'ailleurs avant À propos d'amour. Et il a tout à fait légitimé mon envie d'écrire de la poésie. J'ai toujours écrit de la poésie, mais comme Balux, j'écrivais de la poésie cachée. Je n'aimais pas...
Toute seule dans votre chambre, dans le secret de la nuit.
Exactement, je continue à écrire la nuit parce que c'est vraiment trop bien d'écrire la nuit. Mais oui, je n'osais pas montrer ma poésie. Je ne pensais pas qu'elle devait exister. Et quand je lis, en tout cas, exister sous le regard des autres. Et puis quand j'ai lu en fait, ce texte d'Audrey Lorde, je me suis dit, mais oui, elle a tout dit. C'est très réjouissant de... Je pense que vous devez entendre ma joie, justement. Mais c'est très réjouissant, justement, de lire ces auteurs, ces autrices qui ont pris la place et du coup, d'être sur le chemin avec elles, derrière elles, et de se dire, ah, en fait, il existe un chemin. Justement, il existe une carte où je peux exister. Moi, je trouve ça réjouissant. J'avoue que j'ai pas trop le fantasme d'inventer quelque chose. Je trouve ça très rassurant de voir.
Mais en même temps, un autre chemin. Oui, mais en même temps, que des femmes disent que des textes ouvrent d'autres chemins et de les emprunter, c'est aussi de les créer aussi. C'est-à-dire qu'on les, en les empruntant, on les pratique. Donc, en fait, on les fait exister. Moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont la poésie et l'amour ou la joie chez vous qui est mise, c'est des choses en fait. Qui sont loin de toute la manière dont on se les représente. C'est quelque chose qui se pratique. Voilà, exactement, qui est actif et qui est vivant. Et alors, la poésie qui est tellement pleine de clichés aussi, hein, comme l'amour. C'est-à-dire qu'on voit un homme qui, tout à coup, a une inspiration, c'est-à-dire un élan du ciel qui lui viendrait, qui le transcendrait. Et là, c'est tellement concret. On est tellement dans la matière concrète. Ça change tout. C'est comme l'amour, quoi.
C'est vrai. Après... Alors moi, j'ai été ravie justement de redécouvrir la poésie à travers justement les corps et les rêves et la sensibilité de femmes noires. Et à travers les femmes noires, j'ai aussi redécouvert d'autres textes. Là, en ce moment, j'ai décidé de me remettre à l'Iliade, parce que quand je l'ai lu, je ne comprenais pas tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a cette même urgence dans les textes classiques. C'est juste que nous, on les lit... Des centaines d'années après.
Comme des patrimoines, comme des patrimoines très éloignés de nous.
Exactement, comme des fossiles, en fait. On regarde ça comme des fossiles, alors que quand des grands poètes écrivaient, ils écrivaient pour leurs contemporains. Ils écrivaient pour bouleverser, pour raconter, pour ébranler aussi. Et c'est la même chose qu'Audrey Lorde. C'est la même chose que Balux. Et bon, déjà, moi, je trouve ça extrêmement enthousiasmant de voir cet élan collectif qui traverse les univers, les kilomètres, les sociétés, de voir ce même élan de vouloir bouleverser, raconter, ébranler. Ça, je trouve ça très réjouissant. Et aussi, je trouve ça... moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est que ça... Bien sûr que ça existe, en fait, chez les femmes noires, sauf qu'elles, elles ont été invisibilisées, en fait. Donc, moi, c'est agréable de retrouver, en fait, chez des aînés, chez des contemporaines aussi, ce même élan.
On va vous écouter, qui est mise, justement, lire un de vos textes, extrait de « Et refleurir ». On va voir ce que c'est, voilà, de se mettre à la poésie et d'écrire quand on a lu Balux et Audrey Lorde. Allez-y.
Quand on tentera de te fendre en deux, et qu'entre les blessures coulera l'or précieux que les explorateurs colons veuillent recueillir, tu te souviendras que tu n'es pas arrivé seul sur cette terre. Nous sommes le cadeau des ancêtres. Ils reviennent à travers nous. Ils nous habitent. Ils sont là, tout près, dans les rides de ton sourire, dans les creux de ton âme, dans tes cheveux qui poussent comme le baobab, qui viennent embrasser le ciel. Ton être est la trace d'un passage, la marque d'une histoire, un fil infini, un feu d'artifice en devenir, une aube qui renaît. Quand ton âme sera jonchée de cratères, dans l'immensité d'une vie où le sens manque à l'appel, rappelle-toi, tu n'es pas arrivé seul. Tu n'es jamais seul parce que nous ne sommes jamais seuls. Tu es l'aboutissement de souffles, de tempêtes, de tornades, de soupirs, d'explosions, de sanglots. À travers ton ventre, la vie. à travers tes cris, la vie. À travers tes yeux, la vie. À travers tes rires, la vie.
Sempre aflita com lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como.
Beaucoup qui est mise pour cette lecture de votre poème, enfin de votre extrait, votre texte poétique.
Tout à fait.
Alors cette chanson maintenant pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors moi j'ai choisi plutôt un auteur qui me résiste, dont je ne comprends pas l'attrait.
La hype,
oui, voilà.
Depuis 100 ans.
Ça, vraiment, plus de 100 ans. Enfin, vraiment, en fait, alors, il faut savoir que ma mère a une grande bibliothèque et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à me balader dans ses livres, même si je ne les comprenais pas. Il y en avait beaucoup que je ne comprenais pas depuis que je suis enfant. Et j'ai essayé plusieurs fois de lire À la recherche du temps perdu. Et vraiment... Je ne comprends pas. J'ai essayé de le lire quand j'avais 17 ans. J'ai vraiment lâché au bout de la première page. J'ai essayé de le relire, je crois, peut-être vers 24 ou 23, 24
Au moment ans. De la découverte Bellux.
Ouais, donc non, peut-être pas à ce moment-là.
Pas la même ambiance.
Non, c'est clairement pas la même ambiance. Non, mais je me souviens pas. Je crois que c'était un été où je me suis dit, ah, mais...
Mais c'est souvent les étés où on se dit ça, où je pense quand on est en convalescence.
C'est ça, mais on se dit, mais ah, tout le monde en parle, il faut le lire. J'avoue que moi, je suis un peu sensible à ce genre de
d'injonction.
Je me suis dit, ah, ok, il faut peut-être que je le lise. J'ai essayé, je n'y arrive toujours pas. Et enfin, je crois que j'ai essayé, il y a, c'est quoi, encore une fois, l'été, peut-être il y a 2 ans. Et pareil, vraiment, je crois que j'ai dépassé les 10 pages, mais c'est tout, en fait.
Ça prend pas.
Ça prend pas.
Et qu'est-ce qui prend pas ? Le sentiment aussi de vous sentir obligé, peut-être ?
Oui, et puis, en fait, j'aimerais être éblouie. Ah. Et peut-être que j'ai tort d'arriver dans un livre en me disant « je vais être éblouie ». Et d'ailleurs, peut-être que des gens vont ressentir ça en lisant Bellux après cette émission. Mais vraiment, je me suis dit « ah, ok, bon, tout le monde en parle ». Moi, j'ai trouvé ça long.
On va s'arrêter là-dessus.
Voilà, tout est dit.
Merci beaucoup, qui est mise de vous. On peut lire l'ouvrage collectif que vous avez dirigé aux éditions Les Liens qui libèrent pour la joie. Votre livre est Refleurir aux éditions Philippe Ré. Vous avez fait une lecture. C'était magnifique. Je vous remercie encore. Je cite aussi qu'on pourra bientôt lire le recueil de poésie de Bellux, Quand les anges parlent d'amour. Ce sera aux éditions La Meute et vous l'avez préfacé. Et pour lire À propos d'amour de Bellux, vous le trouverez aux éditions Divergence, traduit par Alex Théard et Florence Zeng. Un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation, à la lecture des textes Anaïs Isbert, et lise-le à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.